Bonjour Antonio Loprieno, égyptologue, recteur de l'Université de Bâle de 2006 à 2015, enseigne l'histoire des institutions à l'Université de Bâle. Antonio Loprieno est intervenu dans le cadre des conférences de l'Institut d'études avancées de Nantes sur le thème « L'université européenne, une culture du désenchantement ».
Qu'est-ce qu'on appelle l'université européenne ?
C'est l'un des aspects qui m'intéresse le plus, c'est justement la définition de ce concept d'université européenne qui a au moins trois formes très différentes. L'une, c'est l'université un peu classique, traditionnelle, qu'on lit surtout en Allemagne au nom de Humboldt, l'université humboldtienne des valeurs disciplinaires et de la recherche. L'autre, c'est le modèle anglais de la liberal arts education, donc l'idée de l'université comme préparation avec un canon de textes ou de méthodes générales qui peuvent s'appliquer à plusieurs disciplines. Et le troisième modèle, surtout en France, à ne pas oublier, c'est le modèle des grandes écoles. C'est le modèle, disons, de la formation universitaire comme préparant à une profession d'élite.
Et c'est pertinent de comparer ces trois modèles ou ces modèles s'inscrivent dans une tradition, une culture de chaque pays ?
Effectivement, ces trois modèles s'inscrivent dans la tradition des pays respectifs. Mais il faut bien dire aussi que dans les dernières 20 années, il y a eu des changements profonds au niveau européen qui ont un peu redistribué les termes de la question, donc qui ont un peu marginalisé la prépondérance de ces trois modes différents dans leurs pays respectifs et qui ont créé quelque chose comme une université européenne de type nouveau, qui est une université où se mêlent un peu des traits des trois traditions différentes et qui est surtout caractérisée par une grande importance donnée à la recherche de base, à la recherche comme élément de l'excellence, ce mot qu'on utilise quelquefois même à tort. En réalité, ce qu'on oublie souvent, c'est que cet aspect de l'internalisation dont on parle toujours, c'est quelque chose qui a été redécouvert dans notre génération, mais qui était au fond dans les gènes de l'université européenne dès le début. La mobilité des étudiants et des professeurs dans l'université du Moyen Âge ou de l'âge de la Réforme était une mobilité totale. Mais puis, on a eu en Europe donc l'époque des États nationaux, le 18e, surtout le 19e siècle, qui ont au fond réduit la perspective internationale des universités européennes, qui ont réduit la mobilité. Et donc ce qui s'est passé après les grandes réformes de la fin du 20e siècle, ce qu'on appelle la réforme de Bologne, ou de la Sorbonne-Bologne, a été une forme de redécouverte de cette dimension de l'internationalité qui existait dès le début de l'université, mais qui avait été perdue au cours des siècles, disons, surtout à cause de l'émergence des États nationaux forts, avec des traditions culturelles et même universitaires très différentes. Les universités européennes, maintenant, sont en collaboration et en concurrence. Et il y a comme une dialectique entre les deux aspects. Elles sont en collaboration parce que si on compare, par exemple, les universités européennes avec les grandes universités américaines, alors beaucoup de nos universités dans nos pays restent de petites institutions. Donc, ont besoin, en quelque sorte, du niveau de la collaboration avec d'autres établissements pour acquérir une visibilité au niveau mondial. Mais ceci dit, les universités sont maintenant beaucoup plus en concurrence, en compétition entre elles, de ce qu'elles n'étaient il y a 30 ou 40 ans, parce qu'il y a maintenant, justement à cause de l'importance de la recherche, il y a des fonds. Il y a des possibilités pour chaque université d'acquérir une forme de présence et d'excellence qui porte à un niveau plus élevé de compétitivité. En France, je rappelle par exemple les investissements d'avenir, donc ce système par lequel certaines universités reçoivent de l'argent supplémentaire pour atteindre un niveau d'excellence global dans certaines disciplines. Et ça, évidemment, ça oblige les universités à entrer dans une concurrence entre elles qui n'existait pas il y a 30 ou 40 ans. Oh. Je pense que surtout en France, il y a eu traditionnellement une séparation très forte entre les universités et l'industrie. Une séparation qui n'a pas existé dans le cas des grandes écoles, qui au contraire était l'une des usines de formation, peut-être l'usine fondamentale de formation des élites de l'État et de l'économie. Alors, le poids donné à la recherche maintenant a un peu augmenté l'importance aussi des rapports avec l'industrie et même l'intérêt de la part de l'industrie, même l'intervention de fonds privés dans l'université. Ceci représente un potentiel positif pour les universités parce qu'elles augmentent aussi leurs possibilités budgétaires. Ça requiert, d'un autre côté, aussi une certaine attention à garder les valeurs, disons, de l'autonomie, de la recherche, de l'enseignement, qui doivent rester sous une perspective publique et ne pas dépendre trop directement d'intérêts uniquement privés. Mais l'intervention du secteur privé en tant que tel est un enrichissement pour l'université parce que ça augmente ses potentiels de recherche.
C'est un enrichissement d'un point de vue pécunier, mais est-ce qu'on n'est pas en train d'abandonner la recherche fondamentale au profit de la recherche appliquée ?
Ce risque existe, mais je pense que c'est un risque probablement qui ne doit pas être exagéré, parce que la recherche de base elle-même tend à devenir de plus en plus une techno-science, comme on dit en anglais, donc une recherche où il y a des éléments d'application. Et dans ce sens, comme les coûts de la recherche deviennent de plus en plus hauts, il faut aussi bien voir que pour la main publique, ça devient aussi quelquefois très difficile de maintenir un certain nombre d'universités à un certain niveau, disons, de performance scientifique, comme les bases, disons, même les bases financières qui permettent de la recherche autonome ont heureusement ou malheureusement changé au cours des années. Donc je pense qu'il s'agit toujours d'une forme de compromis. On ne va pas pouvoir choisir ou donner 100% de raison à l'un ou à l'autre côté. Disons qu'il faut garder les valeurs de l'autonomie, de l'enseignement, de la recherche et cette primauté, si vous voulez, de la main publique et de la vision sociale de l'université. Il faut que ça reste une valeur fondamentale, mais il faut aussi être conscient que les besoins, justement dans le sens de donner une éducation de haute qualité, les besoins de maintenir la recherche à un haut niveau exigent aussi une certaine attention à l'intervention de la main privée.
Je prends un exemple. Aujourd'hui, un jeune chercheur qui s'intéressera à l'Égypte ancienne pourrait trouver du financement privé.
Alors là, vous avez choisi une discipline un peu particulière parce que c'est la mienne, mais c'est aussi une discipline où probablement l'intérêt de la main privée et de l'industrie est plutôt marginal, pour d'évidentes raisons. Ceci dit, il faut aussi souligner que des disciplines de type de sciences humaines, juste comme l'égyptologie, ont souvent, dans le passé et même à présent, soulevé l'intérêt de mécènes, disons de riches privés qui ont contribué, même en France, qui continuent à contribuer à la recherche dans cette discipline. Donc, je pense qu'il y a là comme une séparation de possibilités. Alors, un jeune chercheur qui voudrait faire de l'égyptologie probablement ne va pas trouver lui-même ou elle-même un mécène privé qui va le soutenir. Mais dans toutes les universités et les hautes écoles qui pratiquent de l'égyptologie en France, il y a aussi, à côté de la main de l'État, il y a aussi toujours des privés qui ont un intérêt particulier et qui sont prêts même à ouvrir leur portefeuille.
Le titre de votre conférence, c'est « L'université européenne, une culture du désenchantement », avec un point d'interrogation. Qu'est-ce que vous voulez signifier ?
Alors, la culture du désenchantement est une culture qui, à mon avis, représente la situation actuelle de l'université européenne typique, qui n'est plus l'université de type traditionnel dont on a un peu parlé avant, qui était un peu insérée dans cette vision où l'université avait la fonction de formation de l'élite, surtout de l'élite intellectuelle dans un pays spécifique, mais qui est devenue de plus en plus aussi un établissement de production de recherche, de performance de recherche. Et ce changement culturel a un peu désorienté l'université en elle-même, les professeurs, même les administrateurs de l'université, même les étudiants eux-mêmes ne trouvent plus dans l'université européenne ce type, si vous voulez, de modèle, appelons-le après 68, qui était établi dans notre mémoire collective et qui attribue à l'université cette fonction justement d'éducation d'un esprit libre qui puisse jouer un rôle dans la société. À cause de ces changements qui ont eu lieu dans les derniers 20 ans, on a un peu perdu la foi dans ce modèle éducatif, mais on ne l'a pas encore remplacé par un nouveau modèle d'université. Et c'est ce décalage, disons, dont je me demande si on peut parler de désenchantement.
Il y avait un modèle qui était l'université de Vincennes. C'est quelque chose qui s'est inscrit comme une parenthèse dans le temps ou c'est quelque chose qui aurait pu s'étendre ?
Un peu les deux. Disons, bien évidemment, l'expérience Vincennes s'inscrit justement dans cet essor, appelons-le émancipatoire, typique des années 60, la fin des années 60, de la révolte 68 et de toute la culture académique suivante, même au début des années 70. Alors, il est vrai que ce modèle d'université, probablement dans sa forme la plus pure, n'est plus très actuel parce que même les jeunes sont d'autres jeunes, sont devenus différents. La culture, disons, intellectuelle dans laquelle on se situe a aussi changé. Mais ceci dit, je voudrais souligner que ce caractère de promotion individuelle de l'université ne devrait jamais être perdu. Ça doit rester un moment fondamental, disons, dans le message universitaire. Probablement, disons, dans le sens typique de 68art, ça ne va plus fonctionner maintenant, justement parce que les besoins de la recherche de base ont un peu changé, même les coûts de cette recherche imposent des politiques différentes des administrations universitaires. Mais la fonction fondamentale de l'université comme émancipation de l'individu et création, disons, d'un esprit libre, ben, disons, si on perdait cette ligne de continuité, on perdrait l'identité de l'université européenne. Donc j'espère que ça ne se passe jamais.
Le diplôme doit être commun à toutes les universités ?
Alors là, c'est une question un peu plus difficile à répondre. Disons, probablement, si on pensait à l'université comme à une institution comparable, disons, sans différence, justement avec le cachet ou le titre université, ça garantit un certain niveau, cette situation idéale va être de moins en moins réalisable. Justement, à cause de cette compétitivité qui joue un rôle prépondérant, à cause des coûts extrêmes de la recherche de base, surtout en sciences naturelles, c'est inévitable qu'on va assister dans nos pays à la formation d'une certaine hiérarchie des universités. Donc, il va inévitablement y avoir des universités de la Champions League et des universités de la Challenge League. Ce n'est pas quelque chose qu'on décide exprès, mais c'est quelque chose qui est inévitable parce que les situations, disons, l'enracinement social, mais aussi économique des universités diffèrent.
Ça va améliorer le salaire des chercheurs,
disons,
pour certains.
Oui, voilà. Si vous corrigez, si vous ajoutez ce quantificateur de certains, probablement ça va créer potentiellement des différences entre, disons, le salaire d'un professeur ou d'un chercheur d'une université X qui, dans les rankings, joue un rôle numéro 50 par rapport à une université de province qui est tout aussi importante pour l'émancipation de l'individu, mais disons qui n'entre pas au niveau de la visibilité globale à laquelle on est habitué dans les rankings maintenant. Si vous voulez, on va se diriger vers un changement, disons, d'une mission de l'université en tant que telle, comme institution, de mission spécifique, de stratégie spécifique des universités prise individuellement comme organisation. Donc, si l'université avait comme institution une mission générale dans notre passé, dans notre mémoire collective, cette situation idéale va être de moins en moins le cas. Ça va être substitué par une situation où ce que vous allez vous attendre de l'université de Nantes est différent de ce que vous allez vous attendre de l'université de Rennes. Non pas nécessairement que l'une soit meilleure que l'autre, mais elles vont avoir des spécificités, disons des points de vente uniques, pourrait-on dire en langue de l'économie, qui vont en faire des organisations très différentes et qui ne partagent plus ou plus tout à fait ces éléments, ces valeurs communes qui étaient dans le passé, dans la génétique, dans le génome de l'université européenne.
Antonio Loprieno, recteur de l'Université de Bâle de 2006 à 2015, est intervenu dans le cadre des conférences de l'Institut d'études avancées de Nantes sur le thème « L'Université européenne, une culture du désenchantement ?» Antonio Loprieno est l'invité du magazine.
Je je vous écris un peu comme chercheur la situation comme je la prévois, mais je ne veux pas vous dire que le futur va être nécessairement coloré de rose, parce que ce problème auquel vous faites allusion est un problème réel. Et d'ailleurs, certaines décisions politiques dans les pays de la culture européenne, certaines décisions politiques aux États-Unis ou en Angleterre qui ont été prises récemment, démontrent clairement que justement au moment où des universités d'excellence arrivent à créer des résultats énormes, de grandes pointes scientifiques, la culture locale, nationale, n'a pas le même type de développement qui correspond justement à cette grande qualité de valeur scientifique. Donc, je crois que ça reste un problème pour nos sociétés démocratiques civiles occidentales, disons, de trouver un compromis entre la nécessité de privilégier la recherche de base qui coûte de plus en plus et la nécessité de garder aussi une, disons, une formation émancipatoire pour des secteurs plus larges de la population.
Vous êtes en train de me dire avec diplomatie que l'université, alors aux États-Unis, mais peut-être aussi en France, ne formerait pas des bons dirigeants.
Je suis en train de vous dire, peut-être moins diplomatiquement, que si dans le passé l'université était justement l'usine des dirigeants, cette vocation aussi de fonction sociale, je la vois un peu compromise dans l'université actuelle. Je n'encourage pas ce développement, comprenez-moi bien, je le décris uniquement. Donc, je vois un peu le danger que justement qu'on ait dans nos sociétés des élites qui n'aient plus aucun contact avec la tradition universitaire ou qui soient explicitement anti-universitaire, comme le cas du président américain. Et ça, je le vois comme un problème réel. Mais c'est un problème qui doit se mesurer aussi avec l'évolution parallèlement réelle des coûts de la recherche qui impose de plus en plus ce contact et cette spécialisation des universités vers des points d'excellence.
On va, pour terminer cette courte interview, s'intéresser à la Suisse. Et donc, en quoi l'université suisse serait ou pourrait être un modèle pour l'Europe ?
Alors, je ne sais pas si c'est à un Suisse de dire que l'université suisse doit être un modèle, ce serait un peu arrogant. Mais disons, ce que j'aimerais dire à ce propos, c'est que la Suisse est probablement un pays où se trouve, plus que dans d'autres pays plus grands et avec des traditions nationales plus établies, où se trouve un peu de tout, un mélange de ces lignes, de ces traditions différentes dont on a parlé, et aussi de ses potentiels, mais aussi de ses dangers dont on discutait. Donc la Suisse est en quelque sorte une usine où, à cause de sa dimension, se voient aussi certaines tendances positives et négatives, et à cause aussi d'une certaine richesse financière, où on peut se concentrer sur certains points d'excellence, justement parce que le pays est plus petit. Et donc, on voit les deux aspects de la question, les deux termes de la question. Je pense qu'en général, surtout d'un point de vue français, le modèle suisse peut être intéressant parce que la France, avec tous ses avantages, a aussi, disons-le, un caractère un peu centralisé qui, quelquefois, empêche un peu les développements les plus modernes. La Suisse est justement le contraire de la France. C'est le pays le plus décentralisé. Donc, peut-être de voir un peu l'expérience suisse, ça peut aider à décentraliser, en quelque sorte, certains aspects de la culture académique française.
Et sur le plan international, comment les classer cette université suisse?
Alors, je pense qu'en général, les universités suisses, dans les rankings internationaux, ont une place très bonne, certes meilleure que celle des pays voisins comme l'Allemagne ou la France. Mais ce n'est pas parce que nous sommes, pour ainsi dire, meilleurs. C'est parce que, probablement, en étant plus petit, on a été un peu plus souple, justement, pour adapter les universités à ce type de globalisation. Je vous fais un exemple. C'est très simple d'avoir de bons résultats dans les rankings si les cours de l'enseignement supérieur se font, dans la plupart des cas, en anglais, ou si tous les articles scientifiques sont écrits en anglais, comme le font les chercheurs de l'Université de Bâle, parce que c'est la langue qui est privilégiée dans les rankings. Par ça, je ne veux pas impliquer que c'est bon de faire ça. Mais ça donne explicitement une visibilité internationale à la science suisse qui est proportionnellement supérieure à ce qui se passe dans les pays voisins.
Merci à Antonio Loprieno pour s'être librement exprimé dans cette émission réalisée avec le concours de l'Institut d'études avancées de Nantes.